franceinter.fr.
Quand les machines de Google aident les chercheurs à débusquer les exoplanètes, c'est le thème de la une aujourd'hui.
Notre mission plan A est de trouver une planète où pourraient vivre ceux qui sont sur Terre à l'heure actuelle.
De l'eau, des composés organiques.
On ne trouve pas ça tous les jours.
Non, ça c'est sûr.
C'est une planète parfaite et on n'en trouvera pas une autre pareille.
C'est autre chose que se chercher un super appart.
Un extrait de Interstellar. C'était la première fois hier soir que la NASA et Google s'associaient pour tenir une conférence de presse commune. À 19h, heure de Paris, c'est une nouvelle exoplanète qui était présentée au public. Petite dernière d'un système de 8 planètes, comme notre système solaire, Kepler-90i, est située dans la constellation du Dragon. Mais c'est surtout les capacités de détection de la technique du deep learning, l'apprentissage profond, qui étaient présentées. On discute de cette nouveauté en planétologie et de ses promesses avec notre invité Axel Villard.
Oui Daniel, on est en ligne avec Franck Celsis en direct des locaux de France Bleu Gironde. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS au LAB, c'est le laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Vous êtes spécialiste des exoplanètes et de leur atmosphère. Alors elle est si intéressante que ça, cette petite Kepler-90i, pour mériter une conférence de presse à elle toute seule ?
Alors cette planète en elle-même, elle devient un petit peu anecdotique par rapport au grand nombre d'exoplanètes qu'on connaît. Par contre, elle vient s'additionner à un système qui en contenait déjà 7 planètes. Donc ça porte le nombre de planètes autour de cette étoile à 8, autant que dans le système solaire, et c'est un record pour une étoile autre que le Soleil.
Donc c'est ça qui est intéressant, c'est un système de 8 planètes comme chez nous ?
Alors, oui, c'est un système qui a quelques similarités avec notre système solaire. L'étoile est à peu près du même type que le Soleil. On a 8 planètes, avec des planètes plutôt petites, proches de l'étoile, et des planètes géantes gazeuses plus loin. Par contre, il y a d'énormes différences. En particulier, c'est un système très compact, dont les orbites sont très proches de l'étoile. Donc les planètes sont globalement beaucoup plus chaudes que dans le système solaire. Voilà. Donc la NASA a, je dirais, saisi cette occasion d'avoir le record du nombre de planètes autour d'une étoile autre que le Soleil, pour aussi mettre en évidence sa collaboration avec Google et l'utilisation en fait de systèmes assez modernes qu'on appelle d'apprentissage profond, de deep learning, pour en fait faire l'analyse systématique de beaucoup de données.
Oui, c'est ça qui a été présenté surtout. Hein. Mais comment ces machines de Google, elles nous aident à découvrir de nouvelles exoplanètes comme Kepler-90i?
Donc, il faut comprendre un peu la méthode de détection. Donc, il s'agit d'analyser les données d'un télescope spatial qui s'appelle Kepler, qui a observé environ 200 000 étoiles pendant 4 ans. Et donc, il mesurait la luminosité de façon très précise, au 100 millième près, pour ces 200 000 étoiles. Et donc, ça fait énormément de données. Et dans ces données, il faut trouver les petites baisses de luminosité périodiques qui sont associées à des transits, c'est-à-dire au passage d'une planète devant le disque de leur étoile. Une toute petite fraction des étoiles vont présenter ces signatures d'exoplanètes, parce qu'il ne suffit pas que l'étoile ait des exoplanètes, il faut aussi que les orbites soient bien orientées pour qu'on voit bien le système par la tranche. Donc essentiellement, la plupart des étoiles ne présentent pas ces signatures, quelques-unes les présentent, et c'est un signal très faible qu'il faut arriver à extraire de ces données, et ensuite à bien établir le lien avec la présence d'une planète. Parce qu'en fait... Oui, allez-y.
Oui, Franck Celsis, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était fait en partie manuellement par les chercheurs et pour une fois, la machine a traité les données sans que les chercheurs mettent leur nez dedans.
Alors, c'est pas tout à fait vrai. En fait, on utilise toujours des méthodes automatiques, hein, des méthodes statistiques classiques de traitement de données, on recherche des signaux périodiques, on les compare à des modèles. Alors là, on a utilisé ce qu'on appelle un réseau de neurones avec un entraînement, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'ont fait les chercheurs? Ils ont pris un ensemble de 15 000 courbes de lumière, c'est-à-dire la luminosité des étoiles en fonction du temps, donc une courbe de lumière par étoile sur 4 ans de données. Ils en ont pris 15 000, dans lequel le travail avait déjà été effectué par les méthodes classiques, par des scientifiques avec leurs méthodes statistiques, et dans lesquelles il y avait identifié environ 3 000 transits d'exoplanètes probables, et tout le reste étant des faux positifs, c'est-à-dire d'autres phénomènes, soit instrumentaux, soit astrophysiques, qui ressemblent à des transits qui n'y en sont pas. Donc ils ont appris au logiciel, à ce réseau de neurones, ils ont appris à faire, ils lui ont montré une courbe de lumière, ils lui ont dit ça c'est un transit réel, ça c'en est pas un, etc. Ensuite, suite à cet apprentissage, ils ont pris un échantillon plus petit, cette fois-ci de 1500 cas de courbes de lumière présentant des signaux périodiques, et ils ont regardé ce que donnait le logiciel. Le logiciel a bien retrouvé, je dirais, dans 98% des cas, les mêmes conclusions que par les méthodes statistiques. Donc la machine ne fait à la fois rien de nouveau et ne fait rien d'elle-même. Donc ça, c'est la première chose.
Axel,
ensuite, oui, je croyais que vous alliez continuer. Vous voyez de quel œil l'arrivée de ces intelligences dans votre domaine ? Est-ce que vous voyez ça comme un élément décisif qui vous permet d'aller vraiment plus loin ?
Alors oui, c'est un outil parmi d'autres, parmi les nouveaux outils statistiques. Il y a beaucoup de nouveaux outils. Alors je parlerai pas du tout d'intelligence artificielle dans ce cas-là. On en est très très loin. L'ordinateur là ne fait que ce qu'on lui dit de faire et on l'entraîne. C'est même pas un apprentissage non supervisé. C'est un entraînement très très supervisé. Ce qui sera intéressant, mais là l'article vient juste d'être publié aujourd'hui, c'est de comprendre s'il y a vraiment une raison profonde pour laquelle l'algorithme a trouvé deux nouvelles exoplanètes, parce qu'il y a Kepler-90i, mais il y a aussi Kepler-80g, donc deux nouvelles exoplanètes qui n'avaient pas été trouvées par les méthodes classiques. Mmh. Donc là, on n'a pas assez de recul, parce que normalement, l'algorithme n'invente rien de neuf. Alors, je vois qu'il y a pas mal de tweets sur le sujet, et il y a beaucoup de gens qui semblent pointer, en fait, des bêtes erreurs, on va dire, humaines, dans l'utilisation des méthodes classiques. Donc dans ce cas-là, il n'y aurait rien de fondamentalement neuf. On aurait pu trouver ces planètes-là par les méthodes classiques. Donc l'intérêt finalement de ces méthodes, c'est l'aspect systématique. On a beaucoup beaucoup de données et une machine, un algorithme bien entraîné peut en traiter énormément et donc nous permettre d'aller chercher des choses de plus en plus fines dans des populations de plus en plus grandes, dans des signaux de plus en plus complexes à traiter.
Franck Celsis, je vous propose d'écouter l'avis. Autour de la table, ici dans le studio à Paris, on a Gilles Dohey qui est informaticien. J'aimerais avoir son sentiment sur cette nouvelle façon, grâce à des algorithmes, on a compris, qui imitent le fonctionnement des neurones et qui permettent de voir des exoplanètes là où on n'avait pas réussi à les débusquer.
Oui, moi ce que je trouve très intéressant, c'est que Franck oppose des méthodes récentes à des méthodes qu'il appelle classiques, alors que ces méthodes classiques ont elles-mêmes à peine quelques décennies.
Oui, ça va très vite.
Voilà, donc ça va assez vite. Et on s'aperçoit qu'en astronomie, plus qu'ailleurs, en fait, l'astronomie est la science qui utilise le plus le traitement massif de données. Les astronomes sont les scientifiques qui accumulent les plus grandes quantités de données, c'est-à-dire qu'ils accumulent des quantités de données dont l'unité est 1000 fois la taille de la Bibliothèque nationale de France. Donc c'est des données astronomiques pour le coup, et la manière dont l'astronomie est transformée par l'usage de ces méthodes statistiques de traitement de données, que ça soit du deep learning ou que ça soit des méthodes un peu plus anciennes, de l'apprentissage profond ou des méthodes un peu plus anciennes. Et moi j'aurais plutôt tendance à dire que là on a une révolution qui est comparable à celle de Galilée, c'est-à-dire on a un nouvel instrument qui nous fait faire de l'astronomie d'une manière complètement différente.
Une toute dernière question, Axel.
Oui, Franck Celsis, vous refusez à appeler ça des intelligences artificielles. Pourtant, c'est les mêmes modes d'apprentissage que ceux qui permettent aux machines d'apprendre à jouer au Go ou aux échecs. Et pourtant, on les appelle intelligence artificielle dans ces cas-là.
Alors, je suis pas expert. Demandez plutôt à l'informaticien qui est à côté de vous. Moi, j'aurais tendance à dire que ce qui caractérise l'intelligence, c'est aussi la flexibilité. Là, on a un programme qui est fait pour une tâche particulière. Alors, à partir d'une même base, on pourrait l'entraîner à faire bien des choses différentes. Et c'est peut-être de ce point de vue-là qu'il pourrait éventuellement par raccourci être qualifié d'intelligent. Ce qui est vrai, en tout cas, c'est qu'on commence à avoir des méthodes informatiques extrêmement puissantes qui nous permettent de traiter des quantités énormes de données. Et c'est vrai que c'est pas forcément notre background, c'est pas forcément notre cursus à nous astrophysiciens. Donc ce type d'association avec des informaticiens, avec des gens de Google comme dans le cas présent, va devenir de plus en plus commun. Et je dirais même que là, en fait, le cas présent est intéressant, mais en cosmologie, par exemple, dans les études extragalactiques, on manipule des quantités de données qui sont encore plus lourdes à gérer, et où il y a eu des progrès, je dirais, encore plus forts que celui-ci.
Merci Franck Celsis pour ces précisions. Merci Axel, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le plus vieil ancêtre de Nessie jamais découvert, l'étude du squelette d'un plésiosaure datant de 208 millions d'années, apporte des précisions sur ces gigantesques reptiles marins, découverts en excellent état par un particulier allemand en 2013. Le fossile de 2,3 mètres de long serait, selon les chercheurs français qui l'ont étudié, le premier plésiosaure connu provenant du Trias. Grâce à leur capacité à réguler leur température corporelle et à leur efficace mode de propulsion, évolution, ces animaux auraient réussi à se disperser mondialement et à survivre à l'extinction du Trias-Jurassique en se réfugiant dans les eaux profondes. Les soirs de pleine lune sont plus dangereux pour les motards. Des chercheurs des universités de Toronto et de Princeton ont étudié la proportion d'accidents les soirs de pleine lune chez les deux roues en se basant sur des données qui s'étendent de 1975 à 2014. Ils ont comparé le nombre d'accidents mortels les soirs de pleine lune avec ceux survenus exactement une semaine avant et une semaine après. D'après eux, il y aurait 226 morts de plus sur le total des 494 nuits de pleine lune. Des observations similaires à celles obtenues au Royaume-Uni et au Canada, sans pouvoir bien établir un lien direct de cause à effet entre la pleine lune et les accidents, les chercheurs invitent néanmoins les motards à être particulièrement vigilants ces soirs-là, du fait de la brillance de la lune qui peut, selon eux, ajouter une source de distraction supplémentaire. Hippocrate avait vu juste sur les parasites intestinaux. Un groupe de chercheurs grecs et anglais a pu mettre la main sur des parasites intestinaux vieux de plusieurs siècles avant Jésus-Christ, retrouvés en Grèce dans des sols formés de restes d'excréments et de terre. Il confirme les descriptions écrites du père de la médecine, Hippocrate, dont certaines théories sont restées admises pendant plus de 2000 ans. Les spécialistes indiquent en effet que cette recherche leur a permis d'identifier précisément les espèces décrites dans les textes du sage, comme les fameux vers Ascaris.